Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Pierre de Villeneuve.
Bonjour, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Bonjour à Catherine Day, Michel Cotta et Charles Villeneuve.
Bonjour.
Bonjour Pierre.
Et un bonjour amical à Gérard Carrérou qui nous rejoindra bientôt, je l'espère, au programme de votre émission. Ce samedi, démarrage du nouveau quinquennat Macron et dans un mois, les législatives, le pouvoir d'achat et l'inflation sont une nouvelle fois au cœur du débat politique alors que les partis se mettent en ordre de marche pour conquérir chacune des 577 circonscriptions, le tout sur fond de construction politique puisque le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron se fait attendre. Nos grandes voix nous aideront à y voir plus clair. Pendant ce temps, les bombardements continuent en Ukraine, se concentrent sur Odessa, ville portuaire, historique, ville clé pour l'approvisionnement du pays et façade maritime convoitée par Vladimir Poutine. Les Russes qui ont essuyé cette semaine deux revers de taille, de nouvelles aides financières pour Kiev. Et puis ce tsunami géopolitique, car la Finlande est sortie de sa neutralité et annonce vouloir rejoindre l'OTAN. Est-ce un tournant dans le conflit ? Puis la reine Elisabeth II n'a pas assisté au discours du trône ce mardi, événement majeur de la vie constitutionnelle britannique. C'est alors que le Premier ministre Boris Johnson a essuyé un lourd revers politique lors des élections locales, avec notamment la victoire du Sinn Féin en Irlande. Sommes-nous à la fin d'une époque ? Nous poserons la question en fin d'émission. Le nouveau quinquennat est donc en marche, si j'ose dire, ce matin, zéro heure. Jean Castex est toujours Premier ministre. Peut-être coupons court à ce fantasme qui tourne dans toutes les conversations. Quel Premier ministre, quelle Première ministre, puisqu'on nous prédit quasi unanimement une femme, Catherine Ney.
Ah oui, il n'y a aucun nom masculin ne sort du chapeau. Alors, il y a toute une série de femmes, Elisabeth Borne depuis longtemps, mais aussi, ça vient de sortir, Catherine Vautrin. Marisol Touraine, Madame Azoulay, dont j'ai oublié le prénom,
Audrey
Azoulay, Agnès Pannier-Runacher, qui est aussi en marche. Bon. Le président a simplement dit qu'il voulait quelqu'un qui ait une fibre sociale, environnementale et productive. Mmh. Donc c'est assez large je ne sais pas si ces cinq-là répondent à ces conditions. Bon alors, faut-il une femme ? Alors moi, ça ne s'est pas vu depuis 31 ans, depuis la nomination. Ça s'est arrivé une fois, Madame Cresson, qui est restée un an, et ça a été très difficile pour elle. Est-ce qu'elle était apte à tenir ce poste ? En tous les cas, tout s'est conjugué pour vraiment la démolir, à commencer par les éléphants socialistes, les députés qui trouvaient qu'à chaque fois qu'elle disait quelque chose, elle disait des sottises, ce qui n'était pas vrai.
Il y avait une histoire de fourmi aussi, je crois.
Elle était quelquefois malhabile ou maladroite dans ses jugements, mais enfin, il faut voir aussi comment l'opposition l'a traité de pompadour, de favorite. Il y avait les guignols de l'info qui vraiment l'a traité d'en panthère.
Elle l'a dit récemment, elle est sortie justement de son silence.
Elle a énormément souffert, ouais. On était humiliés pour elle aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il y a des femmes, il y a d'abord l'Assemblée s'est féminisée, les gouvernements se sont féminisés. Alors, faut-il une femme Premier ministre ? Eh bien, d'abord, là, on vient d'avoir une élection majeure, il faut dire que les Français n'ont pas voulu d'une femme comme présidente. Il y avait quatre candidates. Bon, Marine Le Pen
Pécresse,
a fait mieux
Hidalgo,
que d'habitude.
Bon,
Valérie Pécresse, qui était compétente, a raté son coup. Et Anne Hidalgo, qui n'avait pas de préjugés de compétence, aussi, c'est lamentablement échoué. On le regrette pour elle. Bon, voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est particulièrement difficile pour une femme. D'abord parce que les conditions, d'abord il faut savoir tenir l'administration, le pays, connaître le terrain. Mais d'abord, on entre dans une situation de crise économique, on va en parler, les prix qui augmentent, la pauvreté, ça va être une sociale, avec une opposition qui sera très virulente. Parce que je ne pense pas que les NUPES aura la majorité absolue, mais ça va être une majorité très 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 violente qui va bouger déjà. Quand les Insoumis étaient 17, ils faisaient du bruit comme 100. Bon, mais là, je veux dire, il faut pour une femme, vous voyez, avoir du coffre, du chose. Et moi, je pense que physiquement, une poigne, alors peut-être que voilà, ça marchera. Mais je veux dire, voilà, je le souhaite, mais je pense que ce n'est pas le genre qui compte. C'est vraiment la personne idoine qu'il faut dans une situation qui est partiellement difficile.
Alors, la liste est non exhaustive. Oui. Moi, j'ai des câbles comme quoi on entend parler de Mme Keller aussi, Fabienne Keller, qui a été maire de Strasbourg. Voilà, je vous le donne comme ça,
pas.
C'est une information. Michel Cotta.
Non, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Catherine. Je pense simplement qu'il faut que pour qu'une femme s'impose, elle ait les compétences égales de celle d'un homme, et peut-être même un peu plus.
Alors, oui, évidemment, parce que regarde, Pécresse, elle avait des compétences.
Non, mais Christine Lagarde, elle a des compétences. Personne n'a jamais mis en cause ses compétences.
Oui, non, mais on ne la verrait pas.
Il
n'y
a pas trop d'aspect social.
Quant
si
à Edith Cresson, bon, c'est un vieux
oui,
débat.
Mais elle n'est pas première ministre.
C'est un vieux débat. Edith Cresson a quand même pas mal d'erreurs à son compteur. Beaucoup d'erreurs qui ont été... Mettons que les hommes politiques sont plus sévères avec les femmes qu'ils le sont avec les hommes. Moi, je ne crois pas que... l'ampleur des problèmes qui se posent soit insurmontable pour une femme, pas plus que également comme un homme, mais simplement, effectivement, l'idée, il faut une femme, on est très contente de ça, mais on en a un peu peur. On en a un peu peur parce qu'il faut une femme, c'est pas un programme en soi.
C'est la brebis à cinq pattes, quoi. Voilà.
C'est la phrase de Madame Giroud. De Françoise Giroud.
Bien sûr, nous avons été élevés par elle. Elle nous l'a dit souvent.
Oui, c'est pour ça que je vous le dis.
La compétence égale.
Mais Michel, tu dis la même chose que moi.
Je suis un peu moins sévère. Non, je pense qu'on peut trouver sûrement des femmes. J'en vois pas d'ailleurs. Hein.
Mais
on me dirait, encore une fois, on me dirait Lagarde.
Elle ne connaît pas le terrain. Elle ne vit pas en France depuis 10 ans. Non, mais écoute, mais non.
Elle est là pour faire une erreur.
Charles Villeneuve.
Ben moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Oui, mais nous, déjà.
Le philosophe a parlé.
Non, mais c'est vrai.
On en est tous là. Hein.
Moi, je trouve que le problème se pose différemment. On a affaire à un président de la République qui fait tout, absolument tout, et qui est aussi son propre Premier ministre. Il l'a montré depuis dans son premier quinquennat, de toute façon. Parce que si vous avez une personnalité... Il y a quand même pas mal de femmes qui ont des personnalités, notamment politiques. On a là-dessus un réservoir quand même très, très bien fourni, je trouve, à écouter mes deux consoeurs. Je trouve qu'elles ont cité un certain nombre de femmes qui sont vraiment capables. Et par-dessus le marché, je trouve qu'elles ont des qualités, les femmes, que les hommes souvent n'ont pas. C'est la loyauté. Quand on met un Premier ministre qui a du caractère ou une Première ministre qui a du caractère, ça n'ira pas très loin avec un caractère comme celui d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, il fait tout.
Mais alors pourquoi est-ce qu'on dit...
La preuve,
on dit qu'il faut un Jean Castex au féminin.
Jean Castex, justement, c'est très bien adapté. J'ai vu qu'on lui avait offert un maillot de rugby et le 9, parce que c'est le 9, le demi de mêlée qui conduit en général le jeu, en tout cas qu'il réfléchit et qu'il rentre aussi en action. Et c'est vrai qu'il a su rester à sa place de manière formidable.
C'est aussi parce que c'est son joueur préféré, Antoine
Dupont. Son joueur préféré, non, justement pas, parce que j'ai eu ces discussions avec lui-même.
Attention à ce que tu dis, Pierre.
Il reconnaît toutes les qualités à Antoine Dupont, mais c'est un troisième ligne, je peux vous donner cette information, qui s'appelle Antoine Gelon. Qui joue à Toulouse et qui porte le numéro 7.
Merci beaucoup.
Nos auditeurs sont intéressés.
Et qui ne sera pas Premier ministre.
Moi, j'ai quatre préférés, c'est les grandes voix.
Je peux finir.
On est d'accord.
Merci. Voilà. Donc, je pense que quel que soit le Premier ministre, il faudra qu'il s'adapte d'abord et avant tout, pas seulement aux Français, mais au président de la République.
Après la pub, on
marque une pause. Merci, à tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec en ce samedi Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney. On en était au chapitre Jean Castex, Michel.
Oui, il se trouve que Jean Castex s'est révélé comme un très bon Premier ministre pour Emmanuel Macron, évidemment. Pour Emmanuel Macron, peut-être pas pour d'autres. Mais au fond, c'est vrai que nous l'avons accueilli ici avec grand scepticisme, Jean Castex, quand il est arrivé, aux fonctionnaires... qui n'avait pas l'air de l'être. Il avait été quand même passé par le cabinet de Sarkozy. Monsieur Déconfinement. Non, il est devenu... Monsieur Sportif, organisateur des Jeux Olympiques. Bon, on l'avait trouvé... Alors, on le trouvait un peu brut de décoffrage. L'accent, ça ne gênait pas au contraire, parce qu'au fond, on peut tout dire quand on a un accent. Et surtout, il a fait son boulot sans lever la tête, sans faire de l'ombre à personne. Et au bout du compte, il part très bien. Maintenant, de quoi on s'aperçoit maintenant ? C'est qu'au fond, c'est Macron tout seul qui lance la campagne de législative. Et ça, c'est rudement important, parce qu'en principe, le Premier ministre était désigné tout de suite pour mener les législatives. Eh bien, Macron montre que c'est lui qui mène les législatives. Mmh. Et là aussi, c'est une initiative et une prérogative à laquelle un Premier ministre, quel qu'il soit de Macron, devra s'habituer.
Catherine Ney.
Oui, mais c'est vrai que Jean Castex a été pour le président un Premier ministre vraiment... D'ailleurs, il l'a qualifié de Premier ministre exceptionnel. D'ailleurs, il a envisagé de le prolonger. Mais Jean Castex, il s'est donné à fond. Il a beaucoup investi l'Assemblée nationale alors qu'il connaissait l'administration, le terrain, mais pas les politiques. Il a reçu les députés, il a reçu les ministres que Macron, que le président ne voyait pas. Je crois que cette fois... Le président l'a mieux traité qu'Édouard Philippe en l'invitant tête à tête à déjeuner tous les lundis, alors qu'il ne recevait Édouard Philippe qu'avec leur directeur de cabinet respectif. Bon, ça s'est bien passé. Il lui a donné des marges de manœuvre, mais il se trouve que Jean Castex a vraiment fait le taf. Il n'a pas fait le spectacle, mais là, il y avait 2 ans, mais là, il a vu ce qu'était travailler avec Macron, 2 ans à fond, et maintenant, basta, il n'a qu'une envie, c'est partir.
Il a bu le calice jusqu'au bout.
Il y a ça.
Oui, non mais si on écrivait un recueil de toutes les opinions quand elle est arrivée, dont les nôtres d'ailleurs, c'est ce qui serait révélé, c'est le scepticisme absolu. Or aujourd'hui, alors qu'on le couvre de laurier, maintenant même nous, de toute façon. Oui. Et en plus, il est éminemment, moi qui ai passé une soirée il n'y a pas très longtemps à parler un peu avec lui, notamment de rugby, il est vraiment intéressant, vraiment extrêmement courtois et très précis. Il vous dit les choses comme il a envie de les dire.
Et aussi, il a beaucoup de caractère.
Et aussi, paraît-il, il a tenu ses ministres de très près, mais il ne s'est jamais... Il n'a jamais dit à l'extérieur qu'il avait engueulé tel ou tel ministre. Oui. Et c'est pour ça que les ministres l'ont le plus accepté. Mais il paraît qu'il était, au contraire, un aspect bonhomme, très, très exigeant pour ses ministres.
Mais c'est un manager. C'est tout.
Bon, alors en attendant, on a, en attendant le Premier ministre, en attendant Godot, j'allais dire, mais en attendant le Premier ministre, on espère que ça ne va pas durer aussi longtemps que dans la pièce de Beckett. Les législatives arrivent.
Ça dure déjà depuis longtemps.
Législatives arrivent, 12-19 juin. On parle toujours, j'allais dire, presque tout le temps de la même chose, du pouvoir d'achat, alors qu'on a quand même une crise en Ukraine, une crise énergétique, une crise alimentaire. Comment est-ce que vous voyez les choses, Michel Cotard?
Tout ça s'explique justement en grande partie par la guerre d'Ukraine. C'est vrai que la guerre d'Ukraine aura des effets spectaculaires et sur l'inflation et sur le pouvoir d'achat, et que ça, on ne peut pas dire qu'on inflige aux Russes des sanctions sans se dire qu'on se les inflige beaucoup à nous-mêmes. Bon, c'est la règle du jeu. Il faut peut-être en passer par là. En tout cas, le gouvernement qui arrive a, dans ses programmes, sûrement le pouvoir d'achat sur lequel Marine Le Pen, qui se tait en ce moment, mais sera très très présente. Et si elle a des députés à l'Assemblée nationale, ils le seront aussi. Il y a le pouvoir d'achat, il y a l'électricité, l'énergie. On ne sait pas du tout comment se passeront les fournitures de gaz l'hiver prochain. On a mais ça, on y reviendra peut-être, mais on a un président ukrainien qui insiste beaucoup pour que...
Auprès de la communauté internationale.
Pour que la communauté internationale donne et donne davantage, mais ça, on y reviendra. En tout cas, c'est une période qui s'annonce très difficile, mais enfin, le premier quinquennat a été quand même horriblement compliqué. Mais il n'y avait pas d'inflation. Alors l'inflation, ça arrange les uns, ça arrange beaucoup les uns, et ça dérange beaucoup ceux qui ont des pensions, tout le reste, et les pensions.
Sans le bouclier fiscal, énergétique, on a une inflation à 7,5%, et peut-être à bientôt à 10%
en France. Et un bouclier, est-ce qu'on peut garder tout le temps un bouclier?
C'est ça.
Mais là, l'énergie, il va être prolongé jusqu'à la fin de l'année.
Et après,
mais déjà, on voit que, par exemple, l'électricité, il y a quelques mois, c'était 40 euros le kilowattheure. Maintenant, c'est monté déjà à 400, vous voyez. Donc, alors, sur du pétrole, on a connu déjà des hausses de 7,5 unités. Mais comment ça va s'arrêter, vous voyez? Et puis, l'inflation qui grimpe. Il faut savoir aussi qu'en Russie, aujourd'hui, l'inflation est à 17,8%. Donc, vous voyez, Poutine, il va avoir aussi... on dit que les Russes sont habitués à souffrir, mais je crois que la population va s'appauvrir plus encore et que c'est difficile pour tout le monde et qu'on espère que, voilà,
Charles Villeneuve.
Un conflit...
Non, mais la thématique du pouvoir d'achat sera centrale, on le sait très bien. Mais il n'y a pas seulement, il y a la conjoncture économique, Catherine vient d'y faire allusion, et pas seulement en France d'ailleurs, notamment avec toutes les conséquences qui vont, que nous allons aussi supporter. Il y a une interpénétration de toute façon en Europe de tout ce qui se passe, et notamment l'inflation, les prix. Mais l'inquiétude des Français face à l'avenir, bien sûr, avec la guerre, mais d'abord, prenons les législatives pour tous les électorats. C'est d'abord aussi un vote de confirmation ou pas des présidentielles. C'est ça qui va être intéressant. C'est là-dessus, autour de, je crois, qu'il faut tourner de toute façon. C'est d'abord, qu'est-ce qui va se passer dans les élections législatives et qu'est-ce qui va en sortir ?
Et bien justement, on va parler des partis juste après une nouvelle pause publicitaire. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Catherine, Michel Cotta et Charles Villeneuve. Il était une fois des partis politiques. Qui se souvient de l'échiquier de l'automne dernier, de la primaire DLR, du Rassemblement National Tout-Puissant, qui, rappelons-le, est arrivé deuxième à la présidentielle. Tout le monde semble oublier, en particulier Jean-Luc Mélenchon. Reconquête et Zemmour et la percée, souvenez-vous de la percée de Zemmour à l'automne dernier. Suis-je le seul à rêver, à imaginer? Ou est-ce que ces partis forts, robustes, solides, qui semblaient indestructibles, sont devenus quasiment inexistants, Michel Cotta ?
Inexistants, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ne font pas, ils ne font pas la législative et qu'effectivement, tout l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de montrer qu'il peut avoir... alors, il voulait faire, comme on le savait, un parti commun, ça, il n'y est quand même pas arrivé parce que, et François Bayrou d'un côté et Édouard Philippe de l'autre, préfèrent garder la forme d'une coalition. D'ailleurs, je trouve que c'est plus conforme à la réalité.
Oui. Oui.
Et c'est le notion de parti unique, moi, a toujours quelque chose qui gêne. Et puis, de toute façon, le parti unique a toujours comme mission de s'effriter à la première occasion. Donc, c'est évident. En tout cas, cette opération-là de mise en marche des candidats
est-ce qu'elle minimise la concurrence, du coup ?
Alors, je ne sais pas si elle minimise la concurrence, mais ce qui change complètement le jeu, c'est quand même l'union de la gauche autour
les
de
Nupes.
Mélenchon. Les Nupes autour de Mélenchon, d'ailleurs. Je ne suis pas sûre que la majorité serait mise si rapidement d'accord si Mélenchon n'avait pas balancé immédiatement sa liste, qui pose problème à un certain nombre de socialistes. Moi, je ne crois pas à la coalition définitive de Nupes. Non. Je crois que c'est une coalition électorale et que la façon dont Mélenchon dirige son parti, c'est-à-dire une façon complètement autoritaire, et la façon complètement ultra-démocratique dont le Parti socialiste fonctionne, ne laisse pas augurer une vraie alliance pour longtemps.
Catherine.
Mais enfin, électorale, elle est là.
Catherine Ney.
Oui, 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 oui. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que sa grande intelligence, c'est après un troisième échec consécutif, au lieu de sombrer dans la dépression comme il y a 5 ans, il s'est dit la chose, c'est
on
que
parle de Mélenchon. Hein.
De Mélenchon. Ouais. Mais d'abord, il a créé le Nupes. Il s'est, puisque les autres partis s'effondraient, il dit c'est le moment ou jamais d'être le leader de la gauche, de jouer les Mitterrand et de me lancer. Et de, bon, alors, élisez-moi Premier ministre. Bien sûr qu'il n'y croit pas. Je dirais, bon, mais au moins, les gens savent, en votant pour tel candidat, qu'ils espèrent ce qu'il leur a promis, c'est-à-dire peut-être un programme. Et je crois que les gens, avec Mélenchon, sont séduits par un talent de tribun que n'a aucun autre dans la classe politique.
Mais quand vous dites les gens, c'est qui ?
Ben, les gens qui votent pour lui. Hein, les gens, voilà, il fait rire. Quoi ?
La gauche, y compris celle qui n'est pas...
Voilà, la gauche, il a animé ça. Mais que veut-il exactement ? Bon, parce que moi, je trouve extraordinaire, au moment où il lance ce mouvement, d'arriver à Marseille... Et de quitter Marseille, qui vient de l'élire, qui lui a donné une majorité au premier tour. Et il leur dit, bon, mais ça va. Et d'ailleurs, il n'a pas expliqué.
Mais non, merci.
Ouais. Et il s'est posé lui-même la question. Alors, monsieur Mélenchon, vous représenterez ? Non, je ne me représente pas. Et c'est monsieur Bompard qui me succède. Et là, circuler, il n'y a rien à voir. C'est lui qui impose. Ça vient d'en haut et tout ça. Bon, or, quel rôle va-t-il avoir ? quel rôle va-t-il avoir ? Parce qu'au moins, s'il avait un grand groupe avec lui, il aurait été la tête de pont qui serait là aux questions d'actualité. Bon, que deviendrait un groupe, qui, je ne sais pas combien, sans lui ? Alors lui, quel rôle ?
Non mais, lui, mais, il veut un bain de sang aux législatives.
Il veut un bain de sang.
Et devenir non, après, Premier ministre, qu'on le choisisse Premier ministre.
Mais oui, mais il n'y a aucun... Mais il sait très bien qu'il ne l'aura pas. Bon. C'est qu'est-ce qu'il cherche à être ? Après, il aura moins de visibilité puisqu'il ne sera pas à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il veut être ? C'est l'imprécateur qui, de temps en temps, sort et dit des choses horribles sur le gouvernement et tout ça. C'est, on voit mal après la suite.
Oui.
Moi, je trouve qu'il y a deux hommes qui ont réussi leur confédération. C'est d'abord celle de la majorité, derrière le président de la République. Et ensuite, c'est Mélenchon qui a très bien saisi la nostalgie de l'électorat de gauche qui, de toute façon, n'a qu'une seule idée, c'est de retrouver... Le programme commun, on l'a vu là maintenant. Et ce qui fait la force de Mélenchon dans ce débat, c'est la simplicité de ses propositions. Notamment les deux suivantes, le SMIC à 1400 euros et le blocage des prix, à la fois des carburants et des biens de première nécessité. Ce sont des mesures qui ont le mérite d'être simples, fortes et de parler aux gens. Ça, c'est la première chose. Et de toute façon, il a réussi. On peut raconter tout ce qu'on veut. De toute façon, il a réussi son pari. Alors maintenant qu'il cède son poste à son directeur de campagne, Bompard, à Marseille, c'est vrai que c'est surprenant, parce qu'il est bien évident où l'enceinte préférée de Mélenchon, c'est l'Assemblée nationale. Il renonce à cette enceinte. Il sera très intéressant de voir comment... Il reprendra l'entonnoir de la parole pour développer son talent, qui est quand même, sur le plan oral, assez fort. Je dis toujours, on est séduit par son verbe parce qu'il ressemble à celui de Danton, et quand on regarde de près, c'est plutôt celui de Robespierre par rapport à ce qu'il préconise, avec des mesures qui n'ont aucune chance. Aucune chance d'aboutir, comme par exemple la sortie du commandement intégré de l'OTAN au moment où se déclare cette guerre, etc.
Tout ça, c'est fumeux. La régulation de tous les sans-papiers, l'ouverture aux immigrés.
C'est très difficile de finir. Mais moi, je trouve surtout, si vous voulez, que ce que on ne souligne pas assez, ou alors je lis mal les journaux. Je trouve le Rassemblement national chaos debout. Oui. D'abord, je ne trouve pas qu'ils ont réalisé un score exceptionnel. Le deuxième tour ne leur a pas donné un élan suffisant pour se projeter avec succès sur les législatives. Et en plus, elles refusent ce qui est une logique imposée par le scrutin majoritaire, c'est l'alliance. Or, elle a refusé l'alliance avec Reconquête. Elle a tort.
Oui.
Elle a tort, sera loin des soirs.
C'était quoi ? C'était de l'ego ?
Je pense que s'il y a une incompatibilité d'humeur et de contenu dans leurs propositions, ça va beaucoup plus loin.
Mais il y a une humiliation,
elle est rancunière, elle aussi.
Laissez-le finir, le pauvre. Oui. Allez-y, Charles. Allez-y, mon cher Charles.
Non, mais je laisse la parole. Je laisse la parole.
Un petit mot sur Marine Le Pen, s'il vous plaît.
Enfin, voilà, non, mais c'est tout.
Marine Le Pen, Catherine Ney, chaos debout, d'accord avec Charles ?
Non, mais d'abord, elle a fait un meilleur score qu'il y a 5 ans, et puis elle disparaît.
À peine, sincèrement. Elle est loin du score que lui donnaient notamment les sondages à un moment donné.
Mais vous êtes d'accord sur le fait qu'elle disparaît par rapport à Mélenchon, qui lui est troisième à la présidentielle,
elle n'est pas deuxième.
D'accord. Non, mais il a réussi, il ne faut pas lui enlever au moins ce sens formidable, c'est qu'il a parfaitement compris la nostalgie de l'électorat de gauche, qui est important parce que sur le plan local, la gauche, le Parti Socialiste notamment, est très fort et très implanté dans beaucoup de régions. Il ne faut pas l'oublier.
Et ce qu'elle n'avait pas, Marine Le Pen, elle ne pouvait pas aller chercher les 2-3 personnes de Reconquête par rapport au PS, Europe Écologie Les Verts, au PCF, il n'y avait quand même pas le même réservoir.
Mélenchon va sûrement s'inventer un rôle à sa démesure qu'il a. Et Marine Le Pen, au contraire, c'est sa mesure qui est en train qu'il l'a tuée. Parce que... parce qu'elle a perdu. Alors c'est vrai
elle l'a assoupie, en tout cas.
Oui, elle l'a assoupie. Parce que Zemmour, il a eu deux... Il s'est passé deux choses avec les... C'est à la fois qu'il a permis à Marine Le Pen d'être moins classée à droite. C'est lui qui a incarné l'extrême droite. Mais par ses positions très anti-islamiques, très anti-arabes, il a au contraire fait voter le vote communautaire vers Mélenchon. Il a à la fois beaucoup aidé Mélenchon, qui a pris le contre-pied de Zemmour, et il a permis à Marine Le Pen d'être une sorte de modérée. Et d'ailleurs, on raconte, je l'ai lu dans l'Express, je ne savais pas, que lors de son débat avec Emmanuel Macron, là, oui. Elle s'est présentée à lui et elle lui a dit « Maintenant, je suis à vous ».
Ah oui.
Elle a eu cette
avant
phrase.
L'antenne, avant
oui,
l'antenne.
Oui, oui, oui. Voilà, elle s'assoit, elle dit « Je suis à vous ». Donc, « Je suis à vous », ben, elle s'est laissée avoir.
Ah oui.
Vous voyez
ah
et
oui.
C'est extraordinaire. Ah et oui. Après, elle s'en
Mangez-moi.
Va en vacances
oui.
Parce qu'elle est fatiguée. Mmh. Et que là, elle en veut. Je crois que ce qu'elle n'a pas supporté d'Éric Zemmour, c'est qu'il ait dit qu'elle s'occupait de ses chats et que lui, il lisait. Elle a vraiment souffert que le soir de l'échec de Zemmour, il avait 7%. Et il a dit « Hélas, 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 c'est la 8e fois que les Le Pen se plantent.
Oui, » oui.
Ben lui, il se plantait encore plus.
Ouais.
Et surtout que la nièce, vraiment,
Marion Maréchal,
adhère trois jours à Reconquête, trois jours avant le premier tour. Et ça, tout ça fait que c'est une femme blessée et qui a rejeté l'accord.
Oui, c'est vrai, tout ça. Tout ça est vrai, mais sauf que quand vous êtes un chef d'état-major, puisque nous parlons de toute façon aussi de conflits, et nous allons bientôt en parler, eh bien, un chef d'état-major, c'est quelqu'un qui a du sang-froid, et qui sait très bien que le scrutin majoritaire auquel il va, avec lequel il faut s'accommoder, impose au deuxième tour l'insertion dans une alliance pour gagner.
Oui.
Et ce refus qui appelle à l'ego, tel que vient de le définir Catherine, ça va freiner le Rassemblement national qu'il a bien voulu. Ça va diminuer son score du premier tour. Et ça donne le sentiment qu'il y a d'un côté une gauche qui s'est fédérée et de l'autre une droite nationale radicale qui confirme l'appréciation selon laquelle elle est la droite la plus bête du monde.
Allez,
c'est ça la résultante.
10h40, une nouvelle pause et on revient. On parle de l'Ukraine dans un petit instant.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec les grandes voix, Catherine et Michel Cotta et Charles Villeneuve, faute de pouvoir s'interposer, on donne de l'argent à l'Ukraine. Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a annoncé hier que l'Union allait fournir une nouvelle aide militaire de 500 millions d'euros, soit un soutien de 2 milliards d'euros au total depuis le début du conflit. Le ministre des Affaires étrangères russe accuse l'Europe d'être devenue agressive, belliqueuse, dans le sillon de l'OTAN. Une aide qui s'ajoute aux 40 milliards de la Chambre des représentants américaine. Est-ce un nouveau coup dur pour la Russie, Charles?
Oui. Ce qui apparaît clairement, ce qui converge nettement, c'est que tout ce qui est décidé va dans le sens de l'affaiblissement de la Russie, qui n'est pas aussi forte, puissante qu'on le pensait, à tel point d'ailleurs que les Russes eux-mêmes se posent la question, le commandement, on le sent très bien dans la manière dont il agit sur le terrain, dont il avance, dont il reflue, il bombarde, il essaie toujours de décrocher Mariupol, ça vous montre bien de toute façon que la puissance supposée de l'armée russe n'est pas au rendez-vous. Elle aurait dû, rappelez-vous, les analyses prévisionnelles, c'était le Blitzkrieg, c'est-à-dire
la guerre éclair,
dont la France en 40 a été d'ailleurs la victime. Eh bien, cette furia de l'offensive n'a pas eu lieu et elle continue de toute façon à être en panne. Et il y a 6 mois, 20% des Finlandais étaient favorables ou défavorables pour entrer dans l'OTAN, l'Alliance Atlantique. Aujourd'hui, ils sont 80%. Les conséquences de l'offensive, de l'invasion russe sont inimaginables sur le plan géopolitique. Deux pays aussi neutres, la définition même de la neutralité, c'était le mot finlandisation. Et aussi la Suède, qui s'est toujours bien gardée de prendre parti, aussi bien à droite qu'à gauche, si j'ose dire, c'est d'ailleurs être pro-russe ou anti-russe, pro-américain ou anti-américain, qui est toujours resté à distance. Eh bien, voilà deux pays qui veulent quasiment furieusement et précipitamment entrer dans l'OTAN. Ce qui, on sait très bien que la Finlande, qu'est-ce qui est collé à la Finlande aux 1350 km de la frontière? C'est Saint-Pétersbourg. Et Saint-Pétersbourg, qui est la ville d'ailleurs de Poutine, il est bien évident qu'il va changer ces systèmes d'armes et qui va les rapprocher sur le plan nucléaire de toute la Baltique. La Baltique va se nucléariser. D'ailleurs, elle l'est déjà en partie, avec une petite enclave qui s'appelle Kaliningrad, anciennement Königsberg, qui est au sud de tous les pays baltes. Et en 2008, Medvedev, l'acolyte, oui, en quelque sorte, oui, oui, de Poutine, qui a été son premier ministre
à tour de rôle,
lui, oui, a transféré un certain nombre de missiles et de porteurs de missiles, d'ailleurs, qui portent le nom de Iskandar, Alexandre, en
comme
français.
Alexandre le Grand. Ouais.
Voilà. Et missiles, évidemment, porteurs d'armes nucléaires, éventuellement. C'est une base navale qui est importante, Kaliningrad. Ils se sont débrouillés pour mettre à peu près 2000 soldats russes, comme ils le font en Moldavie, à travers la Transnistrie.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, Charles Villeneuve? Que risque la Finlande avec cette annonce?
Ben, elle risque de toute façon, à mon avis...
On lui a coupé l'électricité.
Oui, voilà. Ouais, donc voilà, la première mesure de rétorsion, il utilise deux, de toute façon, armes économiques qu'il a, c'est le gaz, on le sait, important pour l'Allemagne notamment, moins pour la France, puisqu'il faut parler aussi des intérêts français, les intérêts français qui ne sont pas obligatoirement ceux de l'Ukraine ou ceux des Américains. Les Américains sont là, coachent quasiment... l'ensemble de cette guerre.
Alors, au fond, on s'est dit dans une première phase que cette guerre d'Ukraine, ça avait lié entre les différents pays d'Europe, que l'Europe s'était retrouvée et que l'OTAN, qui était moribonde, avait repris esprit. Mais en réalité, des semaines après, on s'aperçoit que quoi ? On s'aperçoit que l'Europe n'est pas si unie que ça sur les mesures à adopter, qu'elle donne de toute façon beaucoup moins d'argent que ce que donne l'Amérique, et qu'en revanche, ça devient quand même l'abondance des milliards déversés sur l'Ukraine pour qu'elle se défende, devient quand même très dangereuse, de plus en plus dangereuse, et que il faut voir les choses, dans ce cas-là, c'est une guerre américaine que mène l'Amérique et dans laquelle l'Europe suit comme elle peut et de temps en temps en traînant la jambe. Donc ça donne quand même une perspective géopolitique complètement différente que le début. Et c'est vrai que l'Europe a intérêt à ce que la guerre s'arrête, tandis que les États-Unis font tout pour montrer qu'ils ont intérêt que la guerre continue. Donc on est vraiment dans un... c'est ce que disait une tribune d'Henri Guénaud dans le Figaro d'hier, qui dit « Nous marchons vers la guerre comme des somnambules ».
Et d'un point de vue historique et culturel, on a très peur pour Odessa aussi.
On a très peur pour Odessa, mais Catherine, ce qui est extraordinaire, c'est que les Russes n'arrivent pas à devenir les maîtres d'une petite île au serpent qui est à l'embouchure de la Haye et qui permettrait de contrôler tout ça. Parce que, à nouveau.
C'est sur la mer Noire.
Sur la mer Noire, Odessa. Oui.
C'est une toute petite île, plus petite que celle de Porquerolles, qui commande en quelque sorte l'entrée dans la mer Noire et surtout du port d'Odessa. Voilà.
Et là encore, hier ou il y a deux jours, il y a à nouveau un bateau important qui a porté tous les radars qu'il voulait installer, qu'il comptait installer sur l'île, qui a été descendu par les missiles ukrainiens. Donc là, toutes les armes que promettent les Russes, les Allemands, les Français vont arriver cette semaine. Donc les Ukrainiens vont être encore plus armés. Et donc il va y avoir de plus en plus d'attaques contre les Russes, mais en riposte, de plus en plus de bombes sur l'Ukraine aussi. Donc c'est quand même quelque chose dont on a... Et il y a l'intransigeance des deux côtés. Zelensky qui reproche à Emmanuel Macron de dire à Poutine, de céder à Poutine, ce qui n'a pas été vrai. D'ailleurs, moi je me pose la question des rapports entre Emmanuel Macron et Zelensky, où est la France? Parce que Zelensky, qui parle à tout le monde, il a demandé à la seule France de retirer ses entreprises de Russie. Il ne l'a pas demandé aux autres. Il cite beaucoup la France pour dire, mais soutenez-nous, vous avez eu Radar sur Glane, vous avez eu tous vos hommes pendus à Tulle. Donc, il trouve que la France, ou en fait trop, ou n'en fait pas assez. Enfin, c'est un rapport bizarre.
Deux choses.
Oui.
Premièrement, il faut savoir que la France, c'est le premier employeur russe en Russie, le plan des entreprises. Oui, oui. Nous avons tout stoppé, alors que les Américains n'ont rien stoppé. Il faut savoir.
Ça continue.
On n'a pas tout stoppé.
Absolument. Pratiquement tout. Oui. On a tout stoppé. Les implantations industrielles et économiques les plus importantes sont stoppées. Bon. Deuxième chose. Tout à l'heure, Michel disait que l'Europe suit évidemment avec moins de moyens que les États-Unis. Mais en même temps, nous avons et aussi bien l'Allemagne que la France, cette semaine, vont être convoyés, d'une part, sur le plan de l'armement français livré par la France, les canons César. Il n'y a pas mieux sur la planète aujourd'hui que les canons César, d'un calibre de 155 mm, et qui est extrêmement précis, et à plus de 40 km. Bon. Et deuxièmement, des chars Léopard. Mmh. Bon, ce ne sont pas les plus modernes, évidemment, de l'arme de la cavalerie allemande, mais ce sont des chars lourds.
Oui.
Bon. Et donc, nous livrons aussi du matériel puissant, des armes lourdes, qui peut nous faire apparaître comme co-belligérants de ce conflit.
Oui, et puis il faut rajouter aussi que l'Union européenne, même si elle donne moins d'argent que les États-Unis, elle accueille les réfugiés ukrainiens, ce que ne font pas les Américains. Ouais. La Pologne accueille plus de 2,5 millions de migrants ukrainiens.
C'est plus facile, de faire la guerre, évidemment, quand on est à 6 000 km.
Non, mais tout se passe en Europe.
Tout se passe
à nos portes.
Il faut quand même le préciser.
Et M. Zelensky, qui est aujourd'hui un vassal complet des Américains, a le droit de dire ce qu'il dit, notamment sa remarque sur le président de la République française, qui doit continuer à tenir le contact avec Poutine. Il est très important de continuer à parler, même au moment le plus fort d'un conflit armé.
10h52, on touche un mot de la reine d'Angleterre juste après ça.
Les grandes voix d'Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Avec Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, ce mardi, Elisabeth II, la reine d'Angleterre, a séché, sur conseil de ses médecins, le traditionnel discours du trône. C'est son fils, le prince Charles, qui l'a représenté. Est-ce que c'est un signe, Charles Villeneuve ?
Moi, je trouve que ce sont les prémices d'une page d'histoire, au sens propre du terme, qui s'apprête à se tourner. Mais la reine a toute sa tête. C'est elle qui a pris la décision d'exclure du balcon royal au moment de son jubilé son fils Andrew et son petit-fils Harry, qui s'est marié, vous savez, avec l'actrice américaine Meghan. Elle a recentré le pouvoir royal dans les mains de son fils Charles et de son petit-fils William, le fils de Diana.
Michel Cotta.
Et puis, elle arrive dans un moment où l'Angleterre est quand même bouleversée et par des élections récentes, et par l'affaire Johnson,
et par le Brexit.
Et le Sinn Féin qui prend la majorité.
Oui, donc, le Sinn Féin.
Donc, c'est vraiment un moment particulier. Oui. Et je trouve qu'elle le gère le mieux possible. Elle le gère le plus lentement possible. On l'a revue parce qu'elle pouvait rouler dans sa voiture. On l'a revue avec ses poneys.
Elle a des problèmes de mobilité, donc elle peut rouler en voiture.
C'est surtout, des problèmes de mobilité.
De toute façon, c'est un règne. Quand on voit les photos de ce règne avec la jeune reine et ce qu'elle est devenue, c'est vrai qu'on comprend que c'est une saga unique.
Une saga d'un siècle. Elle a porté quelque chose qui manquera, c'est la raison dans tout ce tohu-bohu, y compris au sein de sa famille, parce que vraiment, elle a connu tous les malheurs que connaissent les familles, les divorces, les belles-filles qui se conduisent mal, l'Américaine, on avait déjà connu une Américaine dans la famille royale qui détournait un jeune prince et tout ça, donc c'est très douloureux. Et donc là, elle ramène, elle met un peu d'ordre, et on se dit, après elle, tout ça, ça va exploser, parce que Charles, peut-être qu'il sera un grand roi, mais il n'aura pas l'autorité, la bienveillance, même si on le méconnaît, qu'il est sûrement mieux qu'on ne le dit, parce qu'il a des tas d'intuitions, notamment sur l'écologie, il a fait des tas de choses. Mais c'est vrai qu'une page va tourner, puis surtout qu'on va pleurer sur nous, parce qu'on l'a accompagné, c'est un peu, voilà, c'est notre vie aussi, c'est un pan de notre vie qui va s'écrouler.
Mais les Anglais, dans leur écrasante majorité, révèrent leur souveraine, qui depuis 70 ans, il ne faut pas l'oublier, incarne le consensus britannique. Et les Anglais se souviennent qu'elle a vécu le Blitz en 39-45 et parcouru avec ses parents les ruines encore fumantes de Londres, victime des bombardements de la Luftwaffe, l'aviation nazie.
C'est la plus âgée des souveraines au monde.
10h57, merci aux grandes voix. À la semaine prochaine et bonjour à Laurent Mariotte.
Bonjour Pierre et bonjour les grandes voix.
Bonjour.
On va voir du pays aujourd'hui. On vous emmène en Bretagne à la découverte des nouveaux chefs bretons. Et puis Gérald de Paceda, le grand chef marseillais, sera des nôtres. On va cuisiner les poissons de saison. A tout de suite.
À tout de suite.